My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Alors, pour attaquer cette nouvelle année 2016, j'ai voulu aller à la rencontre d'une association qui s'appelle Alter Eco, dont je recevais régulièrement des informations, qui organisait des stages pour apprendre à construire un four solaire ou bien une éolienne, afin de devenir plus autonome en énergie, des éoliennes privées bien sûr. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Cette association est située au-delà de Nîmes, entre Nîmes et Aigues-Mortes. Et là voilà, je viens d'arriver. On voit de loin une grande éolienne tenue par de multiples câbles et puis beaucoup de matériel de récupération, des petits potagers, des panneaux solaires. Voilà, j'arrive. Il y a un grand panneau avec un escargot en bois qui indique que nous arrivons à Ecovert, un lieu géré par Alter Eco 30, où l'on peut trouver le siège social d'Alter Eco, la maison des enfants, les ateliers Montessori, la Saladelle, une coopérative bio autogérée, les jardins de la Vallée Verte, ACT, donc qui est expliqué, c'est l'atelier créatif et technique, et l'atelier art et bien-être. Eh bien, dis donc, tout un programme. Je m'avance au-delà du parking pour aller à la rencontre de Bruno Lortiwa qui, avec sa famille, gère l'association. Et il y a un chien qui vient m'escorter. Salut toi. Bonjour Bruno Lortiwa. J'arrive ici chez toi, hein, c'est bien ça?
Oui, chez nous. On est une famille de 5 personnes, donc il y a Anne et il y a 3 enfants, Paul, Rémi et Justin.
D'accord. Et plus les animaux, la colombe et le chien.
Voilà.
Et peut-être d'autres.
Roro et Django le chien.
Django le chien. Cette maison où vous vivez, c'est un peu le début de l'histoire. Vous êtes arrivé là d'abord pour habiter?
Oui, on est arrivé là en 1997. C'était une vieille maison, ce qu'on appelle un mas, avec les murs, le toit en bon état, c'était à peu près tout. Et donc on a passé les premiers hivers avec une température intérieure qui était la même température que la température extérieure. Donc quand on a été deux, ça allait. Mais après, avec Justin qui est arrivé, c'est vrai que ça devenait difficile avec 13 degrés le matin. Donc c'est un peu à ce moment-là que je me suis intéressé à ce qui était rénovation et notamment éco-rénovation. Le but aussi, c'était, on n'avait pas beaucoup de revenus, donc d'isoler cette fameuse maison, ce mas, qui est quand même assez grand, au moindre frais, mais avec des matériaux naturels. Mmh. On avait eu déjà une démarche avant d'arriver ici sur l'alimentation bio.
Oui.
On avait été notamment assez sensibilisé par le film « Nos enfants nous accuseront », qui a été l'un des premiers films un peu choc.
Qui a été tourné par chez nous, à Barjac.
Oui, tout à fait. Oui. Et dans l'une des personnes qui est dedans, le prêtre, à un moment donné, qui qu'on voit, qui est un peu typique, qui est aujourd'hui à Vauvert.
Ah d'accord, il est venu chez vous
histoire,
maintenant.
Il est à la retraite, on va dire, parce que... Le prêtre s'arrête à un moment donné et donc voilà, il est à Vauvert.
Ben oui, parce que donc je précise tout à l'heure, je disais que votre lieu, donc Alter Eco ou Ecovert, comment on l'appelle ce lieu?
Alors Alter Eco, c'est l'association qui s'occupe de tout ce qui est technique, qui permet d'aller vers plus d'autonomie dans tous les domaines de la vie. Et Ecovert, c'est le lieu en lui-même.
D'accord.
C'est l'éco-lieu qui a ce nom-là.
D'accord.
Et qui accueille plusieurs réalités, plusieurs groupes. qui ont des activités différentes.
Comme je l'ai vu sur le panneau, voilà, à l'entrée, on va détailler tout
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait.
Et alors, donc, Écovert est situé donc à Vauvert. Et
un oui.
petit jeu de mots là-dessus.
Il y a un petit jeu de mots, c'est Eco, E-C-H-O. L'idée, c'est de faire écho et que... voilà, l'idée derrière, il y a une idée de communication aussi, de dire, eh ben, c'est une expérience, c'est un lieu expérimental. On essaie de vivre... avec peu, en visant une bonne qualité de vie, la meilleure possible, en respectant la nature, en respectant les animaux, en respectant les humains. Et on essaie de mettre en place des outils concrets, pratiques, reproductibles. Et du coup, à partir de là, quand il y a quelque chose qui marche, l'idée c'est de communiquer, le diffuser au maximum et que ça fasse écho, bien sûr.
Donc une recherche d'autonomie, hein ?
Oui, une recherche d'autonomie. Voilà, au niveau énergétique, au niveau habitat, donc on revient un petit peu à l'idée d'éco-construction du début là, avec cette maison qu'on a isolée avec de la laine de mouton par l'extérieur.
Même les murs, donc ?
Tous les murs là sont doublés à l'extérieur de 12 cm de laine de mouton.
Ah, ça c'est original,
voilà,
on entend
original
assez peu ça.
Et c'est efficace puisque on a fait ça il y a déjà une dizaine d'années et on a divisé notre consommation énergétique de 75%.
Ah, c'est énorme, dis donc.
C'était colossal et c'est vrai que c'est appréciable parce que c'est tous les ans qu'on économise 75% voilà, d'énergie.
Tout à fait, ouais, ouais. Donc en gros, vous lui avez mis un bon pull en pure laine à votre maison.
Tout à fait.
Avec une couche de torchis, bien sûr, pour protéger la laine.
Voilà, après, il y a un enduit à base de chaux, de sable et de terre. Et puis la question, c'était les mythes. Alors ça, c'est un petit clin d'œil aux éco-constructeurs.
Oui.
Puisque si on utilise la laine de mouton à l'intérieur, eh ben, on a des invasions de mythes.
Possible.
Mais si on l'utilise à l'extérieur, on n'a pas d'invasion de mythe parce que la mythe a besoin de la douceur, de l'habitat, de l'intérieur, mais elle n'arrive pas à s'implanter, à se développer à l'extérieur. Moi, j'ai laissé un mur volontairement apparent avec la laine bien accessible à toutes les mythes possibles et imaginables. Et depuis 10 ans, il est comme ça et on n'a pas vu une seule mythe s'implanter sur ce mur, donc c'est que ça marche
excellent.
Bien.
Excellent. Et du coup, la laine de mouton, en 10 ans, se conserve très bien.
Alors, ça se conserve très très bien, c'est quasiment imputrescible, c'est naturel, c'est pas cher.
Ça ne s'enflamme pas, je me souviens.
Ça ne s'enflamme pas, la qualité, le coefficient d'isolation reste constant malgré l'humidité. Aujourd'hui, on est un jour très humide. Si j'en avais utilisé, par exemple, des isolants tels que la laine de roche ou la laine de verre, le coefficient d'isolation baisse énormément par conditions humides, alors que la laine de mouton, ce coefficient est relativement constant. Donc ça a vraiment plein d'avantages. Et puis le prix qui est très très bas.
C'est très intéressant, oui, parce que la laine de mouton, il faut savoir en France qu'il n'y a pratiquement plus de production de laine en France. Donc les moutons, par contre, doivent continuer à être tondus pour des raisons de santé, parce que sinon ils auraient trop chaud, voilà.
Ouais.
Et donc généralement, les éleveurs de moutons ne savent pas quoi en faire de la laine. Donc soit elle devient du compost, soit elle est brûlée, mais elle ne sert pratiquement plus à rien en France.
C'est quasiment un rebut, et c'est vrai que le prix de vente de la laine de mouton est tellement dérisoire que ça ne paie même pas les tondeurs, l'équipe qui vient pour tondre les moutons. Ça couvre une petite partie de cette charge-là. Moi, je l'ai acheté à peu près, je crois, 30 centimes le kilo, sachant qu'avec un kilo de laine, ça fait quand même beaucoup de volume.
Aucun besoin, du coup, de la nettoyer pour la mettre sur des murs extérieurs ?
Non, non, non. Moi, je l'ai utilisé brut. Non, il y a le fameux suin à l'intérieur qui va quand même se détériorer avec le temps, progressivement.
Mais qui la protège pendant tout un temps aussi.
Voilà, qui la protège. C'est une sorte de graisse qui a...
Naturel.
Le seul inconvénient, c'est un petit peu l'odeur la première année. Donc ça sent le mouton. Mais à partir de la deuxième année, c'est bon, on a plus de moutons à la maison.
Vous écoutez Radio 16 sur le 99.2. Et aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, on parle d'autonomie avec l'association Alter Eco 30, qui est un modèle dans le domaine. Alors, on revient tout de suite après Les Ogres de Barbac.
J'ai mon lot d'angoisse qui pèse au-dessus de ma pomme. J'ai le cœur gris et la vie monotone. Je ne suis pas fier d'être un homme, avec son couteau et sa bite toute conne. Je fume de l'herbe et je bois du rhum, pour égayer mes quelques neurones. Ma joie se décompose en deux tomes, les matins sans voix, les soirs affolent. Je voulais t'aimer mais y'a qui dirait comme, une épine dans le pied, un vide qui résonne. Entre moi et l'amour si peu d'atomes, crochu le temps qui détruit mes hormones. J'ai cru comprendre que la vie est une somme de coups tordus qui se pèsent en tonnes. donne. Où est-il Dieu que je le traîne au prud'homme? J'ai rien signé entre nous, y'a mal d'homme. Je rêvais ma vie comme Huckleberry ou Tom. Plein d'aventures et l'école qui buissonne. Anéantir les moulins du royaume. Être un héros comme Quichotte. J'ai mon lot d'angoisse qui pèse au-dessus de ma pomme. J'ai l'humeur grise et la vie monotone. Je ne serai jamais, jamais fier d'être un homme. Avec sa raison qui déraisonne. Je voulais devenir fin gastronome. Bouffer la vie quand le bonheur rayonne. Mais le temps passe, c'est pas des sans-arômes. Des rois, des riens, c'est moi qui ai la couronne. J'ai quitté l'école sans un diplôme. Des profs déçus qui m'ont dit j'abandonne. Des parents qui m'ont rêvé astronome. Pour me voir devenir monsieur personne. Tout est si plat comme sorti d'un sitcom. J'subis ma vie, y'a plus rien qui m'étonne. Je veux disparaître comme Gomorrah et Sodome. Face à face à ma dernière heure qui sonne. Fatigué du temps qui passe et m'assomme. Toujours l'impression que l'on me soupçonne. Je veux retourner dans mes rêves de monde. Ne plus être un lion qui survit dans la faune. J'ai pas fini, écoute la fin du psaume. D'un enfant des rues, enfant de la zone. Qui agit en responsable autonome. Noie son chagrin sur le magnétophone. Comme un pansement sur tous mes hématomes. Je pose des pompes de mots sur l'hexagone. Ma devise calée au métronome. Liberté, égalité et microphone. Ça évitera bien des violences. Ça t'évitera de me faire violence. Ça m'évitera de te faire violence. Ça t'évitera de me faire violence. Ça t'évitera de me faire violence. Ça t'évitera de me faire violence. Ça m'évitera de faire violence. Ça évitera bien de violence.
Et oui, un peu déprimé les ogres de Barbac, et il y a de quoi dans ce monde, bien souvent, d'être assez déprimé par ce qu'on nous propose. Alors voilà, nous on essaye dans Les Enfants du Nouveau Monde de chercher une façon de vivre autrement, et c'est justement le site internet de cette association Alter Echo 30, c'est vivre-autrement.org, et nous sommes avec eux pour découvrir tout ce qu'il y a sur leur lieu, du côté de Vauvert, pas loin de Nîmes, qui s'appelle Echo Vert, et que nous découvrons avec Bruno Lortibois. Voilà, vous étiez là et ensuite vous avez développé tout un tas d'autres activités que nous allons aller explorer ensemble.
Oui, on peut faire un tour rapide parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ouais.
Alors, tant qu'on est là, on est à côté de la parabole, donc on peut dire un mot sur la parabole.
Ça, c'est quelque chose en plus sur lequel vous communiquez beaucoup. Vous organisez des stages pour apprendre à la fabriquer. Cette parabole, c'est un four solaire et qui a des atouts particuliers.
Oui, alors on est dans une région où il est dommage de se priver de l'utilisation du soleil, notamment pour la cuisson, pour le chauffage de l'eau aussi, bien sûr. L'idée, c'était de faire un outil qui soit vraiment efficace, qu'on puisse utiliser tous les jours de l'année, même en plein hiver. Il suffit qu'il y ait du soleil. Hein. Nous, on a eu cuisiné par moins 7, moins 8 degrés. On va aussi vite que sur la gazinière. Pourquoi est-ce qu'on va aussi vite que sur une gazinière? Parce qu'il est assez grand.
Donc, oui,
comme vous voyez, il fait 1,60 m de diamètre.
Mm-hmm. Avec un grand support, un grand socle.
Voilà, et c'est la dimension, le diamètre de la parabole qui va donner la puissance, j'allais dire la puissance de feu.
Oui, c'est ça. Oui.
Au foyer. Donc la puissance, elle est proportionnelle à cette surface. Donc là, on a une parabole d'1,60 m de diamètre. Sachant que l'hiver, on a au plus faible à peu près 8, on peut récupérer à peu près 800 watts par mètre carré. Donc 1 mètre carré de soleil, enfin, de surface, récupère 800 watts d'énergie thermique de soleil. Là, on a 2 mètres carrés, donc ça fait déjà 1600 watts. Et quand on connaît la puissance des fours électriques, 1500, 2000 watts,
on y est,
on voit qu'on est à peu près bon.
D'accord.
Par contre, l'été, c'est beaucoup plus puissant. On peut avoir jusqu'à 4500, 5000 watts.
Donc là, il faut y aller tout doux si on ne veut pas cramer le gratin. Quoi.
Tout à fait. Donc, ça demande effectivement une petite technique d'utilisation.
Oui.
Voilà, il faut s'habituer à son usage pour faire des cuissons douces. On peut faire des cuissons très douces, on peut faire des cuissons très, très, très puissantes.
Donc, on peut régler le thermostat en plus.
On peut régler le thermostat de différentes façons. Alors, ça serait un petit peu long d'expliquer toutes
ces
façons-là.
C'est une façon d'orienter différente, j'imagine.
Non, ouais, c'est pas l'orientation est toujours, la parabole toujours orientée vers le soleil grâce au viseur qu'on a intégré à la parabole, qui est un cadran solaire.
Alors, je veux bien que tu me montres.
Voilà, c'est le petit cercle ici blanc.
D'accord.
Avec la tige qui sort, c'est juste un cadran solaire. Et la tige, en fait, matérialise l'axe de la parabole. Et cet axe, il faut qu'il soit exactement aligné au rayon du soleil pour qu'on ait le point chaud au centre.
D'accord.
Donc, on élimine l'ombre en bougeant la parabole, en gros. Et quand il n'y a plus d'ombre, c'est que notre parabole est en bonne position.
Alors, je me souviens avoir vu des amis qui utilisaient ce type de parabole en moins grand, bien évidemment. Mais je me souviens qu'il fallait très régulièrement venir retourner la parabole pour qu'elle soit justement dirigée dans l'axe du soleil. Et donc, c'est le même cas, j'imagine.
Alors, c'est le même cas à peu près tous les quarts d'heure. Mm-hmm. Nous, il faut tourner la parabole. Mais comme on est en train de cuisiner, de toute façon, il faut venir pour touiller, pour vérifier la cuisson, etc. Donc on donne un petit coup de déplacement à la parabole sur ces deux axes. Et ça fait partie des petites habitudes à prendre quand on cuisine.
C'est pas trop lourd à bouger un appareil comme ça. Comment vous faites pour tourner?
Sur les modèles que je fais actuellement, il y a une petite poignée à hauteur de main. Mm-hmm. Donc on fait une orientation est-ouest. Il y a deux roues du côté opposé où je
d'accord,
me trouve.
D'accord.
Et après, l'orientation nord-sud se fait parce que la parabole est sur un axe et elle pivote. Voilà.
Ça, c'était la grille du barbecue qui n'était pas accrochée.
Alors, cette parabole, c'est un vieux coucou. C'est-à-dire, c'est l'un des premiers prototypes que
d'accord.
j'ai fait. Donc, j'ai remodifié jusqu'à arriver à quelque chose d'optimal. Mm-hmm. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette parabole peut être reconstruite avec des matériaux très facilement trouvables partout, voire même avec pas mal de matériaux de récup, si j'ai bien compris.
Alors, on s'est amusé à faire une parabole de ce modèle avec des matériaux de récup. Mm-hmm. Pour 30 euros, on avait une parabole qui cuisait un poulet de 2 kg à 1h15.
D'accord.
Donc ça, c'était alors avec du papier alu cuisine, etc. Donc vraiment que de la récup. Après celle-là, c'est là du contreplaqué, donc des matériaux qu'on peut trouver assez facilement, mais qui coûtent un petit peu plus cher. Donc mm-hmm. la parabole qu'on fabrique en stage, elle a un coût d'à peu près 180 euros de
d'accord.
matériaux, mm-hmm. sachant que ce sont les réflecteurs qui coûtent le plus cher. Mm-hmm. Là, c'est un matériau spécial qui vient d'Allemagne,
d'accord.
Qui est l'aluminium souple traité d'une façon particulière.
Pour qu'il soit aussi brillant.
Tout à fait.
D'accord. Bon, alors voilà, pour ceux que ça intéresse d'apprendre à construire une parabole, vous organisez régulièrement donc ces stages pour apprendre à construire son four solaire.
Voilà, il y a deux trois stages par an qui se passent ici. Et après, les gens qui sont bons bricoleurs peuvent télécharger le manuel de construction sur le site d'Alter Eco 30 et essayer de, pourquoi pas, réaliser eux-mêmes leur parabole sans faire de stage, il n'y a pas de souci.
Excellent. Donc Alter Eco, c'est A-L-T-E-R, Eco, E-C-O, 30.
30, voilà, point com.
Alors, on continue la balade.
Voilà, donc on arrive dans une zone de bâtiment qui comprend plusieurs pièces. Et on va rentrer dans le fournil.
Ah, ici, hein, fournil. C'est vrai que j'ai vu tout à l'heure sur la table un bon pain qui avait évidemment l'air fait maison. Moi, je comprends mieux.
Voilà, donc au début, quand on s'est installé, on a un ami qui cherchait à faire du maraîchage. Et comme on avait 2 hectares de terrain, bon, on lui a prêté une partie du terrain. Et puis, au bout d'un an et demi, 2 ans, il a eu des difficultés. Il a eu un accident de moto, il a dû arrêter son activité. Et cette personne avait fait une formation à Rodian maraîchage bio, CFPPA. Et il avait fait son stage chez un paysan boulanger. Et ça l'avait complètement émerveillé. Il était complètement fou de ça. Il avait envie de faire du pain, tout ça. Et moi, de mon côté, j'avais toujours essayé de réfléchir à des outils, des poêles à bois économes, des choses comme ça, qui permettent d'utiliser un minimum de combustible pour un maximum d'efficacité au niveau cuisson et énergie. Et donc, on s'est un petit peu lancé un défi, on s'est dit, j'ai proposé, on va construire un four à pain professionnel pour que tu puisses faire ton activité, lancer ton activité de paysan boulanger sur place. Donc, ça s'est passé à peu près en 2 mois, j'ai fait des plans, lui a beaucoup travaillé sur la construction, donc je le briefais un peu au fur et à mesure des différentes étapes d'élaboration de ce four. Et puis on a réussi à faire ce modèle, un four donc qui travaille à double combustion, c'est-à-dire on brûle les fumées.
Ah, d'accord.
Il faut savoir, dans les fumées, il y a 30% d'énergie qui part. Mm-hmm. C'est-à-dire, si on arrive à brûler les fumées, on va économiser 30% de bois.
Ouais, c'est le principe du rocket stove et tout ça. Hein.
Voilà, tout à fait. Sauf que là, c'est un peu plus gros. Il faut quand même développer pas mal d'énergie parce ouais. qu'on a un four, la surface de ce qu'on appelle la sole, c'est-à-dire là où on va poser le pain pour la cuisson, on fait 2,50 m.
C'est beau, je regarde dedans. Oui, il y a
et
de la place.
Le foyer est dessous et la flamme va rentrer dans le four, traverser le four et s'échapper.
D'accord. Alors, le foyer est en bas à droite, on met les pains bien sûr au milieu et puis la fumée sort en haut à gauche, donc ça traverse tout le four.
C'est un système où le foyer est suspendu, on a de l'oxygène qui est réinjecté dans ces fameuses fumées mm-hmm. qui brûlent en fait dans le deuxième étage du four. Et les températures dans le foyer sont très importantes parce que pour brûler ces fumées, il faut arriver au-delà de 900 degrés.
Bruno Lortiwa, vous êtes très bricoleur pour arriver à créer quelque chose comme ça.
Ouais, moi j'aime bien. J'ai fait des études en fait au départ en physique chimie. Donc j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses et imaginer des outils qui soient les plus efficaces possibles. Donc souvent, d'abord je regarde ce qui existe. C'est vrai qu'en autoconstruction, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de choix, on va dire. Et donc, la plupart du temps, je repars à zéro et je fais quelque chose qui, pour moi en tout cas, est
efficace.
Ouais. Excellent. Il y a certainement encore mieux à faire. Mais... Alors, juste un point de détail, mais oui. qui n'est pas du détail du tout, c'est le prix du four quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Puisqu'un four comme ça, l'équivalent, on peut le trouver, il y a des fabricants de four à pain. Hein. Mm-hmm. Donc, on commande un four, il y a une équipe qui vient pendant un mois qui va travailler.
Construire un
four. Il y en a à peu près pour 20 000 euros pour mm-hmm. un four comme ça. Et nous, en matériaux, on en a eu pour 1 500 euros, tout compris.
D'accord.
Donc, c'est là où ça peut faire la différence pour l'installation de quelqu'un.
C'est clair.
Quelqu'un qui voudrait s'installer, qui est un peu bricoleur ou qui est entouré de personnes qui bricolent, à la rigueur, il peut arriver à s'installer s'il a 2000 euros sous la main, alors que
2000 euros,
20
ça 000 complique
euros,
la donne.
C'est quand même autre chose.
C'est sûr. C'était donc la boulangerie. On en ressort.
Hop. Je vais aller chercher la clé
ouais.
pour la suite.
Oh. Ou alors ici, ça sent. Voilà, la Saladelle, c'est le groupement d'achat, parce que je voyais sur les murs plein de dessins avec des pommes, des amandes, OGM non merci, etc. J'ai cru comprendre où est-ce qu'on arrivait. La Saladelle, voilà le groupement d'achat, mais c'est carrément une petite épicerie.
Oui, c'est quand même un magasin.
Hein. Ah ouais, tout à fait.
La pièce fait 35 mètres carrés, il y a des étagères un peu partout. Et il y a deux types de produits. En gros, il y a des produits qui viennent d'un grossiste qui s'appelle Probabio. Et puis, il y a des produits producteurs. Alors, soit qui sont sur cette partie de la COP.
D'accord.
Des produits des producteurs locaux.
Ouais, il y a du vin, du miel, de la bière.
Des noix.
De la crème de marron.
Voilà, et après, il y a aussi le samedi matin des producteurs qui viennent là pour les produits frais, donc maraîcher, fromage de chèvre,
super.
De la viande.
Vous avez votre petit marché à domicile.
Voilà.
Bien joué quand même. Hein. Finalement, vous n'avez plus besoin
pratique.
De bouger de chez vous. Quoi. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein, le paradis des enfants, bien sûr, la chocolade, la fameuse, hein, le Nutella bio. Et puis une fois qu'on y a goûté, le Nutella à côté, hein. Franchement, on n'en veut plus. Hein. Et puis voilà, et puis toutes ces bonnes choses-là, des céréales, du lait végétal, des gâteaux, tout, des haricots verts, bref. Tout ce que vous pouvez trouver dans une épicerie bio. Même du dentifrice.
Quand
hop, allez Django, on y va, on sort.
Pousse-toi, elle dort. Oui, donc la COP, elle existe depuis 2001. Et donc on est en association et on est formé sous forme collégiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, trésorier, secrétaire.
D'accord.
Il y a un ensemble de personnes qui forment une collégiale. Du coup, dans cette association, on a différents groupes d'activités. Il y a un groupe animation, un groupe épicerie, un groupe administration, un groupe bricolage, par exemple.
D'accord.
Et chaque groupe... tous les adhérents de la COP participent à son fonctionnement. Donc, chaque adhérent doit 10 heures de participation par an et s'inscrit à l'un des groupes ou à plusieurs groupes s'il veut pour faire soit du ménage, soit de la mise en rayon, de la comptabilité. Selon ses compétences, il va s'orienter vers telle ou telle activité.
Super.
Donc, pas de salariés. Du coup, les produits grossistes, on prend une petite marge pour couvrir les frais, les charges, etc. Donc, on prend 10%. Mais ça ramène quand même à des prix assez bas par rapport au prix qu'on trouve en magasin bio. Et après, tout ce qui est producteurs locaux, donc là, on a vu des produits en rayon, le vin, le miel. Et puis après, le samedi matin, il y a tous les producteurs qui viennent pour les produits frais. Là, on prend aucune marge, c'est-à-dire ouais. C'est tout pour le producteur.
Super. Voilà. Beau fonctionnement. Et vous êtes combien de personnes qui venaient vous fournir qui venaient,
Alors, il y a à peu près une soixantaine de familles qui sont inscrites
quand même.
À la COP.
D'accord. Ouais.
Et c'est bien parce que ça se développe et c'est un concept qui commence à... Autant pendant une dizaine d'années, on a tourné autour de vin, c'était un peu... Ça vivotait, on va dire.
Oui.
Autant depuis à peu près 3 ans.
Là, ça explose.
On a l'impression qu'il y a une prise de conscience qui fait que les gens cherchent vraiment à développer l'agriculture locale, à une petite échelle, à une échelle humaine, etc.
Donc, à consommer des produits sains,
ouais,
etc.
Ouais.
Ok.
On peut aller par là. Alors là, on va rentrer dans l'antre des enfants.
Oui. Ah oui, c'est tout mignon ici.
Voilà. Donc, soit on enlève nos chaussures pour naviguer.
Ouais, c'est tout propre.
Soit on reste là.
Ouais, je vais rester là, moi.
D'accord.
Voilà.
Okay.
On voit tout d'ici. Une jolie salle, une jolie pièce en bois et torchis avec tout un tas de petits matériels pour les enfants. Ça me fait penser à du matériel Montessori, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, des petits plateaux, à de la. La dinette en porcelaine, il y a des petites maisons en bois avec tous les petits meubles, etc. Des graines, des petits paniers, enfin bref, tout un tas de petites choses pour les enfants. Alors.
Voilà, donc c'est la, on va dire une salle de classe, équipée en pédagogie Montessori. Et du coup, ben, nous, nos 3 enfants sont scolarisés à la maison. Bon, sachant que le plus grand maintenant est au collège Calandrette sur Montpellier. Anne, donc mon épouse, qui est par ailleurs professeure des écoles dans l'éducation nationale à mi-temps et qui s'est formée en pédagogie Montessori il y a 8-9 ans à peu près, fait l'école à la maison à nos enfants ici, plus des ateliers les mercredis et pendant les vacances pour des enfants qui viennent de l'extérieur et qui sont aidés dans les difficultés qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir à l'école par... la pédagogie Montessori.
Combien d'enfants viennent ici ? Il n'y a que vos enfants qui sont scolarisés ici,
ouais.
Vraiment, sur l'année ?
Oui, ouais, tout à fait. Après, ça dépend. La salle n'est pas très grande, donc quand on fait des stages, ça va être 8 enfants maximum. Puis, Montessori, il faut des multiniveaux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une différence entre les âges, parce que les ateliers s'adressent à des âges différents et qu'il n'y a pas un atelier en 10 exemplaires, hein, mais il y a chaque atelier un exemplaire unique. Donc c'est un peu aussi la philosophie aussi de Montessori, cette diversité des âges dans une même classe, parce que les enfants aussi vont pouvoir collaborer, s'entraider, interagir avec des enfants qui n'ont pas le même âge, c'est important. Et donc voilà...
Et oui, les plus grands aident les plus petits. Les plus petits regardent l'écran avec des grands yeux émerveillés et ont envie d'évoluer. C'est vrai que c'est très riche, les groupes d'âges divers.
Voilà, alors ça permet en fait de suivre, bien sûr, les programmes de l'éducation nationale, puisque quand on fait l'instruction en famille, on est inspecté une fois par an.
Oui.
Et donc on doit suivre un programme.
Donc ils sont inscrits au CNED concrètement les enfants ou pas ?
Concrètement, ils suivent les ateliers Montessori, puisque tous les ateliers qu'on voit ici, il y en a à peu près une centaine quand même, permettent d'aller jusqu'au niveau collège.
D'accord, quand même.
Dans les apprentissages.
Ah oui, ok.
Et ils font une moyenne de 1h30 à 2h d'atelier par jour, 4 jours par semaine pour arriver au niveau qui est demandé par l'éducation nationale.
D'accord.
C'est largement suffisant parce que comme la motivation vient de l'enfant, Montessori, dans les apprentissages, ceux-ci se font d'une façon très rapide.
Mm-hmm.
Parce que quand on est motivé, on apprend très vite.
Bien sûr.
Et puis le système qui est en fait basé sur une expérience d'abord sensorielle, motrice et puis après intellectuelle, est quand même aussi très efficace au niveau de la méthode d'apprentissage. Il y a une excellente mémorisation parce que ça passe par le corps et les sens aussi. Et du coup, on peut dire que c'est en plus que ça se fasse dans le plaisir pour l'enfant, c'est super efficace. Donc, au début, on voit c'est très sensoriel, c'est basé sur des versets, des transvasements, sur des fermetures. Donc pour les 2-3 ans, voilà, on a beaucoup de manipulations. On travaille sur les discriminations visuelles entre les différentes couleurs, les palettes de couleurs, des discriminations auditives. Voilà, on fait vraiment travailler les sens à fond dans les deux premières années. Et après, on enchaîne sur des ateliers où on va commencer à apprendre à dénombrer, à compter.
Ah oui, là, il y a un bel atelier de bouliers de toutes sortes.
Voilà, c'est le meuble des perles. Alors, Maria Montessori aimait beaucoup les mathématiques. Donc, la dimension de l'apprentissage des maths à Montessori, elle est très poussée et elle est très efficace. Et donc là, le principal outil pour les maths, c'est ce meuble des perles, qui permet d'aller jusque au calcul des puissances 2, des puissances 3, etc.
Excellent, dis donc, on dirait pas comme ça. Bon, c'est passionnant tout ça.
Voilà.
Et éventuellement, vous ouvrez cette petite école à d'autres, ou pas?
Alors, c'est pas une école, mais on ouvre les ateliers Montessori.
D'accord.
Donc, soit pendant les vacances, soit les mercredis, aux enfants qui souhaitent y participer ou aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants.
Aux enfants, ouais, c'est plutôt ça.
Souvent, ça commence comme ça.
Où est-ce qu'on trouve les infos pour ceux que ça intéresse?
Alors, sur le site vivre-autrement.org, si vous allez dans la rubrique stage, vous allez avoir les stages Montessori avec toutes les informations.
D'accord. Vivre-autrement.com. Tout un programme. En tout cas, c'est le nôtre. Aux enfants du Nouveau Monde, on cherche à vivre autrement. Donc là, vous êtes bon hein, dans mathématiques. Là, vous touchez un peu à tous les domaines. Hein. L'énergie, l'éducation, l'alimentation. Très intéressant. Alors là, on passe devant les potagers.
Oui, alors ça, c'est notre ancien jardin familial. On a toujours eu un jardin ici depuis qu'on est arrivé, donc à 97. Et puis, il y a 3 ans, on a lancé le projet Les Jardins de la Vallée Verte, qui est un jardin collectif. Et donc, notre jardin familial s'est transformé en jardin collectif et on a rajouté d'autres parcelles. Ça, c'est une parcelle. On a en tout 4 parcelles pour à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés de jardin. Jardins qui sont cultivés par une dizaine de familles qui viennent soit une ou deux fois par semaine, le mercredi ou le samedi matin. Et c'est un fonctionnement collectif autogéré. Donc on a mis en place un plan de culture qui permet de prévoir une année en fait les semis à l'avance avec des dates de semis, les variétés semées, etc. De façon à ce que chacun puisse récupérer quand la production commence à arriver, donc on fait des récoltes et chacun récupère
un
panier avec un peu de tout pour sa consommation personnelle. L'idée c'est je participe, je viens jardiner.
Et c'est pas chacun son carré.
Et c'est pas chacun son carré.
On fait ensemble. Super.
Alors ça demande un apprentissage, hein, l'apprentissage du fonctionnement collectif. Ça vient pas tout seul. On a bien été formé dans l'individualisme et on est modelé d'habitude et on se rend compte que c'est pas forcément évident, que ça va pas de soi. Donc ça demande un petit apprentissage, comment s'organiser. Alors on met en place des référents, notamment il y a un référent arrosage, un référent semis, un référent préparation du sol, compost. Et donc chacun acquiert des compétences et transmet des compétences aux autres jardiniers dans le temps, ça se fait progressivement. C'est une expérience humaine intéressante
et
enrichissante.
Et grâce à toutes vos expérimentations, vous allez sans doute avoir des bonnes recettes à transmettre à d'autres collectifs qui auraient besoin d'avoir des méthodes efficaces pour gérer.
Ce qui fonctionne, on essaie de le diffuser. Et si ça peut servir à d'autres, tant mieux.
D'où le éco vert.
D'où le éco.
De éco. I ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God?
my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom.
Quoi de mieux en 2016 que d'écouter Radio 16 sur le 99.2 et surtout les enfants du Nouveau Monde, puisque je vous y emmène aujourd'hui à la rencontre de Bruno Lortiwa qui nous parle de son association Alter Echo 30 et qui, surtout qui nous fait visiter donc le lieu de l'association et aussi leur lieu de vie qui s'appelle Echo Vert. C'est du côté justement de Vauvert, pas loin de Nîmes. Alors on y trouve un four à pain économe, on y trouve un cuiseur solaire, une éolienne gigantesque que l'on voit de loin, des bâtiments en éco et auto-construction, des potagers, une classe Montessori, un groupement d'achat bio en autogestion. Vous en voulez encore ? Pas de problème. Il y a aussi des bassins de phytoépuration et c'est de ça justement qu'on va tout de suite parler dans cette grande marche vers l'autonomie.
On fait un stage de construction de phytoépuration, bassins, citernes. Avec une technique qui s'appelle le ferrociment que j'ai trouvé intéressante parce que c'est une technique qui servait à fabriquer des bateaux à base de ciment et d'une structure grillagée en fer.
D'accord, donc effectivement très étanche du coup.
Voilà, très étanche, très peu coûteux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a acquis cette technique-là, on peut vraiment fabriquer on pourrait fabriquer une citerne de récupération d'eau de pluie de 100 000 litres. C'est tout à fait réalisable. Une phytoépuration, un bassin pour les poissons, la vie aquatique. Des passages pour l'eau, etc. Et ça permet d'être autonome pour toutes ces activités, pour la création de lieux où il y ait de l'eau.
Mm-hmm.
Et l'eau est indispensable, hein, sur un lieu.
Surtout quand on a des jardins en quantité dans une région chaude comme la nôtre.
Tout à fait. Mm-hmm. Ouais. Ne serait-ce que pour récupérer l'eau de pluie. Alors ici, on est à côté de la phytoépuration qu'on a construite là, il y a 3 mois.
Donc vous avez réussi à trouver un système de phytoépuration qui soit vraiment efficace alors ?
Oui, les phytoépurations, si elles sont bien faites, elles sont très efficaces puisqu'en sortie, on a une eau qui est au niveau de la qualité de baignade.
Ah oui.
Donc c'est une eau qui a une bien meilleure qualité que l'eau qui est rejeté par les stations d'épuration.
D'accord. Donc pour expliquer à tout le monde, la phytoépuration, c'est donc l'épuration des eaux par les plantes, hein, phyto. Voilà.
Alors,
donc
c'est pas que. Un terme qui n'est pas très adapté en fait. Alors c'est effectivement des bassins où il y a du gravier, où il y a l'eau qui est, on va dire, sale, qui circule. Et c'est sur ces graviers que se développent des bactéries. Alors il y a des bactéries qui vivent à l'air, qui sont plus en surface, des bactéries qui vivent sans oxygène, qui sont plutôt dessous.
Mm-hmm.
Et cet ensemble de bactéries va détériorer la charge polluante qui est dans l'eau et va la transformer en éléments minéraux qui sont des éléments nutritifs pour les plantes. Et donc on associe des plantes à ce système-là en plantant ici des roseaux, des marais dans les graviers. Et donc les roseaux, eux, ils vont servir à pomper ces éléments nutritifs.
D'accord.
Et à les extraire du milieu.
Okay.
Sinon, il y aurait un engorgement. Et nous, une fois par an, on va couper les roseaux.
Mm-hmm.
Donc, quelque part, on va extraire cette charge sous forme de roseaux et le système va pouvoir continuer à fonctionner.
D'accord, voilà. Très bien.
Donc, c'est pas directement les plantes qui épurent, c'est les bactéries qui épurent et les plantes qui viennent aider les bactéries à décharger.
Très intéressant. Alors du coup, en plus, c'est assez joli parce que vous avez fait des bassins en forme d'arabesque, un peu arrondis, etc., qui se déversent les uns dans les autres à plusieurs niveaux. Ça rend vraiment joli.
Moi, je déteste les carrés, donc c'est très compliqué pour la construction de faire des ronds, mais Mais pour l'œil, c'est quand même beaucoup mieux, quoi.
Et puis pour des bassins, ça se fait quand même. Voilà. On peut y arriver.
Ouais, pour mettre des et avec cette technique du ferrociment, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire toutes les formes. C'est-à-dire ici, voilà, c'est vraiment des formes très biscornues, complètement irrégulières. On a un petit canal qui ramène l'eau des bassins du haut vers le bassin du bas, qui est aussi fait en ferrociment. Et le bassin qui est, lui, enterré, qui est également fait en ferrociment. Donc, on peut faire des bassins hors sol, on peut faire des bassins enterrés, semi-enterrés, des citernes. Enfin, c'est vraiment super créatif, en fait.
Ouais. Alors là, il y a encore un bâtiment. On voit la paille qui déborde sous le toit. Et puis un beau torchis orangé avec un escargot sculpté dessus sur la maison, là. C'est très joli. Oh, c'est beau ici. C'est la salle de sport. Je vois qu'il y a des haltères.
Il y a Florian qui fait du sport, oui. Mais c'est une salle qui s'appelle l'atelier art bien-être.
D'accord.
Qui accueille les activités. Par exemple, les enfants qui font des ateliers, qui peuvent faire des ateliers Montessori le matin, peuvent après l'après-midi faire un atelier peinture libre ou poterie. Et donc ça se passe ici. Voilà. Donc une fois par semaine, par exemple, il y a des percussions. Donc il y a un groupe de personnes qui vient. Et qui se rassemble pour faire une soirée percussion dans ce lieu. Voilà, donc c'est plus spécifiquement réservé à tout ce qui est autour de l'art et du bien-être.
Et de la création. Ah, super.
Voilà, et puis c'est aussi au départ ce petit bâtiment qui fait à peu près 35 mètres carrés, c'est un prototype d'une technique de construction. C'est un peu comme pour la parabole. J'ai voulu imaginer une technique qui soit simple, c'est-à-dire que tout le monde puisse réaliser, même sans avoir de compétences en maçonnerie, en menuiserie, etc. Qui utilise quasiment un seul type de pièce de bois, c'est de la planche de coffrage, donc quelque chose qu'on peut trouver absolument partout.
Et pas cher.
Des matériaux naturels peu coûteux, donc trois matériaux de base, le bois, la paille,
et
ici
la
paille de riz, parce qu'on n'est pas loin des rizières.
Ah ouais, d'accord, donc vous avez récupéré de la paille ici dans les rizières.
Alors d'accord. On a acheté des bottes de paille, mais de la paille de riz qui est intéressante parce qu'elle est imputrescible.
Ah ouais,
donc,
d'accord.
Elle bouge vraiment pas du tout. Et après la terre, voilà, la terre pour les enduits intérieurs, extérieurs.
Que vous avez sur place ? Vous avez de la terre argileuse ici ?
Alors la terre, on l'a extrait quand on a construit la phytoépuration.
Donc vraiment du terrain, donc vraiment voilà. C'est la terre du terrain quoi, vous n'êtes pas allé la chercher loin, c'est super.
C'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir avant à l'organisation sur un lieu, à la chronologie des choses. C'est-à-dire que là l'idée c'était, on fait la phyto d'abord, on récupère de la terre, cette terre après on l'utilise pour faire les enduits, voilà, mais on y a pensé avant pour que ça puisse se faire. On aurait été embêté de faire la phyto après, puisqu'on aurait dû aller acheter de la terre quelque part ou en trouver quelque part à l'extérieur.
Vous avez mis des pigments dans la terre parce qu'elle a vraiment une superbe couleur orangée là.
Alors la terre, la couche de corps de la terre est utilisée avec de la terre
brute
d'ici, qui est un peu marron, très jolie.
Oui, on
et
voit
la
là
terre
sur les
rouge,
côtés.
Qui fait l'enduit et la beauté, on va dire, de l'enduit, vient de Beauvoisin. Beauvoisin, un petit village à 4
km
d'ici.
D'accord, donc vous avez de la belle terre.
Oui, oui. Ouais.
Pas loin. Ok.
Voilà, et puis donc du coup avec ce bâtiment, on a noté un petit peu toutes les étapes de la construction, on a noté les coûts, et un peu comme pour le four à pain, on a cherché en utilisant des matériaux naturels à avoir un coût vraiment minimum, parce qu'on voit dans le domaine de la construction écologique des coûts.
C'est souvent
très
excessif.
Important.
Alors là, le bilan pour un bâtiment de 35 mètres carrés,
8 000 euros.
D'accord. Pour 35 mètres carrés.
Bioclimatique, on a eu la chance d'avoir deux jeunes qui sont venus au cours de la construction, dont l'un était ingénieur thermique bâtiment.
Il était très bienvenu, lui.
Voilà. On l'a tout de suite embauché. Et il a rentré les données du bâtiment dans un logiciel de calcul. On calcule la consommation énergétique sur une année de ce bâtiment. Et donc, on a les résultats. Et en chauffage, si quelqu'un habitait à l'année dans ce bâtiment, qui serait un studio, il consommerait à peu près 0,8 stères de bois par an. Donc, moins d'une stère, donc à peu près 50 euros de chauffage.
D'accord.
S'il l'achète pour une année.
Excellent. On est passé devant les toilettes sèches, qui sont plutôt rigolos.
Les toilettes sèches.
Espèce de tour de guet, peinte de toutes les couleurs.
Avec un décor africain.
Avec un décor africain, oui, tout à fait.
Les toilettes sèches, c'est vrai qu'ici, il y a quand même beaucoup de monde. On peut être une quinzaine, une vingtaine pendant 3 mois d'été. Donc il fallait des toilettes sèches dimensionnées à ce nombre de personnes. Donc il y a les toilettes sèches sont sur 2 grands bacs étanches qui font à peu près 1 mètre cube chacun et qui vont recevoir les déjections humaines pendant à peu près 6 mois.
D'accord.
Avant d'être remplies. Et il y en a 2, c'est-à-dire que les toilettes sont déplacées et quand un bac est plein, on déplace les toilettes. Et on les met...
C'est-à-dire on ne se sert plus de cela et on va dans les autres le temps que ça devienne du compost, c'est ça?
Voilà, sauf que tout est dans cette cabane-là, dans ce bâti-là.
Ah, d'accord.
Sauf que le support sur lequel on s'assoit,
d'accord,
change de place.
Ok, d'accord.
Donc là, il est à droite.
Ok.
Et si on revient dans 3 mois, il va être à gauche. Et à droite, il y aura une trappe qui aura été mise qui fera qu'on ne voit pas.
Et
ça
qu'on ne sent
quand même
pas.
Penser et qu'on ne sent pas. Et puis, il y a un système d'aération qui permet justement de... Il y a un tuyau dessous.
Ouais.
Et donc, on va pouvoir aspirer, en fait, l'air des bacs pour éviter qu'il remonte dans la cabine.
D'accord. Hein.
Ça va être aspiré par ce tuyau noir qui est à l'extérieur, qui chauffe.
C'est génial.
Et qui crée un ascendant d'air qui aspire. C'est comme si c'était un ventilateur.
C'est super malin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a ces deux tuyaux qui sont en fait des tuyaux... comment on appelle ça, ces tuyaux-là?
En PVC, oui.
Des tuyaux en PVC, voilà. Qui sont donc reliés au réceptacle de ces toilettes-là. Et puis, ils sont reliés de l'autre côté à une sortie qui est plus haute, tout simplement. Donc, du coup, ça permet de faire un appel d'air et de faire sortir les odeurs dans le jardin.
Voilà, donc on pourrait rallonger un petit peu ce tuyau. Il est de couleur noire parce que dès qu'il va faire un peu soleil, ça va chauffer. Ça va faire comme une cheminée, ça va chauffer, donc l'air va monter.
D'accord, donc ça aide encore plus à l'évacuation.
Aspirer. Du coup, pendant qu'on remplit un côté, l'autre côté, on le laisse, on le vide pas tout de suite. Et donc, il va se composter pendant quand même 6 à 8 mois.
Mm-hmm.
Et donc, on va sortir le côté qui est plein.
Seulement une
juste
fois qu'il
au moment
est composté.
Où l'autre est plein et qu'on veut changer nos toilettes de place. Donc, il faut vider le premier côté, mais qui s'est composté depuis 8 mois, ce qui fait qu'il a diminué de volume. Il a été divisé par 2.
D'accord.
Son poids a diminué pareil. Et on sort une matière inerte. C'est-à-dire, on ne voit plus de papier, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'odeur, etc.
Oui, oui.
Et c'est quelque chose, c'est une matière compostée qu'on peut directement aller mettre sur les haies.
Au
pied des arbres, etc.
Fantastique.
Donc, c'est quelque chose d'assez pratique quand on reçoit beaucoup de monde.
Oui, tout à fait. Alors justement, vous dites que vous accueillez beaucoup de monde. Il y a bien sûr, j'imagine, tous ceux qui viennent participer au stage, se former, etc. Mais pas que.
Alors, on reçoit pas mal de volontaires du réseau OOF.
Le woofing.
Le woofing.
Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, le woofing, c'est quoi déjà? World Wide Organic Farm, je ne sais pas quoi.
On organic farm, ouais. C'est
les fermes biologiques tout autour du monde, en gros.
Voilà, c'est ça, un voyage dans des fermes biologiques tout autour du monde, tout à fait. Puis il y a tous les pays, on peut s'inscrire quand on veut voyager sur le réseau d'un pays en particulier, et par exemple la France, et du coup on va recevoir ou on va accéder au carnet d'adresse de toutes les personnes qui accueillent. Donc ce sont des fermes en général biologiques, mais nous ici on n'a pas de production labellisée bio, mais par contre on fait tout en bio et on fait tout naturellement, donc ils acceptent. À partir du moment où on prouve que ce qu'on fait est naturel, voilà, on peut accueillir des woofers. Et on a beaucoup de demandes parce qu'il y a pas mal de diversité d'activités
ici sur place, et oui, tout à fait.
Donc, éco-construction, fabrication de cuisards solaires.
Tous ceux qui s'intéressent aux pratiques d'un nouveau monde, s'ils arrivent là, il y a plein de choses à apprendre, hein, c'est sûr. Et il y en a de plus en plus qui s'intéressent à un nouveau monde, justement, et à toutes ces pratiques qui tendent vers plus d'autonomie, vers plus de bon sens, vers plus de respect de la planète, de la terre, de l'eau, de l'air, etc., etc. Et de nous, bien sûr. Alors, il y a les woofers. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux par lesquels les volontaires peuvent venir chez vous? Alors, ce qu'il faut bien aussi définir, c'est que le volontaire, il vient, il est logé, il est nourri, et contre cela, contre son accueil ici, il va participer aux différentes activités, donner un coup de main.
Oui, c'est un petit peu l'échange. C'est un échange de savoir, d'une part. Le volontaire, il vient pour apprendre quelque chose. Il vient pas pour faire des gestes répétitifs toute la journée pendant trois semaines. Et du coup, moi, je demande aux gens ce qui les intéresse. Bon, il y en a, ça va être plus la pédagogie Montessori, d'autres plus l'éco-construction, d'autres plus l'agroécologie. Et en fonction des activités du moment, ben, je leur dis, bon, il y a ça et ça à faire en ce moment, est-ce que ça vous intéresse? Et à partir du moment où la personne est d'accord et qu'on a de la place, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, et je suis amené à refuser quasiment 3 personnes sur 4 qui demandent à venir ici. À partir de là, ben voilà, nous on demande une participation libre de 3 à 4 heures par jour. Dans les faits, les gens qui viennent sont motivés et en général,
ils plus que ça.
Ils sont actifs toute la journée. Ouais. Les gens sont logés, nourris, ils ont accès à Internet. Voilà. Ils peuvent avoir un vélo, aller se promener. Ils font ce qu'ils veulent le week-end, etc.
D'où l'intérêt aussi donc, d'avoir un grand potager qui fournit bien pour pouvoir nourrir toutes ces bouches.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on était face à... À un certain moment, on pouvait devenir un peu incohérent en disant ben, on cherche l'autonomie et puis finalement, on reçoit beaucoup de volontaires et on va au supermarché pour acheter de la nourriture et on est hyper dépendant de l'extérieur. Ou bien on essaie de mettre en place une organisation qui fait que ces personnes-là, qui viennent pour l'autonomie, eh bien, elles créent leur propre autonomie, c'est-à-dire qu'elles vont participer au jardin. Donc dans le jardin, on compte pour Écovert, l'association Alter Eco 30, 3 jardiniers. C'est-à-dire que les volontaires sont intégrés au nombre de jardiniers. Mmh. Et du coup, on a 3 parts de jardiniers en légumes.
Supplémentaires.
Voilà, pour arriver à une autonomie sur Super. Place. Et puis, depuis l'année dernière, on a attaqué aussi la culture des céréales et des légumineuses. Alors, à petite échelle, à titre expérimental.
D'accord.
Voilà, mais on a récolté une dizaine de kilos de pois chiches, par exemple. Et ça nous fait travailler aussi sur ben, comment on plante, quels outils on utilise, comment on récolte. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, investir dans une ancienne moissonneuse, enfin, pas une moissonneuse, mais une ancienne batteuse qui traîne dans un garage d'un agriculteur qui a été utilisé peut-être il y a 40-50 ans.
Parce qu'on ne va pas battre tous les pois chiches à la main,
voilà,
hein, soyons clairs.
Voilà. Et donc on essaie de mettre en place, à partir de maintenant, une unité, c'est-à-dire une... un département, ça fait pro quand on dit un département.
un ministère carrément. Bon, hein.
Allons-y. Hein.
Un ministère de l'agriculture.
Un ministère de la transformation alimentaire.
Au sein de Écovert.
Pour faire voilà, genre de la polenta. On a semé du maïs à polenta l'an dernier.
D'accord.
Donc ça a très bien marché. Parce qu'ici on a beaucoup d'eau, il y a l'eau à 2 mètres sous terre. Donc
ah
ça
oui.
C'est un gros avantage et la terre est très très bonne aussi. Donc on peut planter du maïs et donc on en plante un peu et on a récupéré du maïs à polenta, sauf il faut l'égrener.
Mm-hmm.
Et puis il faut faire la polenta, c'est-à-dire à un moment il faut un moulin.
Le concasser, voilà, c'est ça.
Donc on est dans cette phase-là d'équipement d'un espace.
Pour la transformation.
D'une pièce qui servira à la transformation.
Ok. Ouais. Alors, en ce qui concerne cette éolienne, quand même, qui est vraiment votre signe, comment dire, on vous voit de loin. Hein.
Voilà, c'est pour savoir où on est quand on est sur le chemin des canaux.
Voilà, ça, c'est la route, la départementale qui passe devant chez vous. C'est le chemin des canaux, c'est ça?
Voilà. Ouais.
Ou c'est votre chemin, là, le chemin des canaux?
Non, le chemin des canaux, c'est la départementale. Sur le,
elle n'a plus rien d'un chemin, soyons clairs. Hein. Tout le monde roule à 90. voilà, c'est plus du tout un chemin, mais bon.
Alors, c'est une éolienne pigote. Donc ça, c'est été inventé par un agriculteur écossais qui vit sur une presqu'île en Écosse et qui s'est mis en tête, quelqu'un de très têtu, je pense, de fabriquer lui-même son éolienne à partir de ce qu'il avait d'accessible.
Sous la main, ouais.
Voilà, donc des poutres. Hein. Du cuivre pour faire des bobines de cuivre pour fabriquer complètement la génératrice qui va produire le courant, ouais. Avec des aimants permanents très puissants, des aimants au néodyne, on appelle ça. Et donc on a organisé un stage de construction il y a quelques années, sur une semaine, il y avait une vingtaine de stagiaires. C'était organisé par l'association Tripalium qui est spécialisée dans la construction de ce type d'éolienne.
D'accord.
Qui vient avec un camion atelier. Et on part effectivement de poutres de Douglas ou donc des bois imputrescibles. Ça, c'est du cèdre rouge.
Le grand mât.
Alors, les poutres, c'est les pales. Donc, les pales font 3,60 m de diamètre. Il y a trois pales en bois qui ont été entièrement sculptées à la main. Et on est parti vraiment de poutres avec une façon pour découper, pour sculpter les poutres très précise. C'est au millimètre.
D'accord.
Et à la fin, il y a un équilibrage pour vraiment que le centre de gravité des trois pales soit parfaitement au milieu.
Alors là, comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent et l'éolienne, elle tourne vraiment bien. Les pales de loin, elles n'ont pas l'air si longues.
Oui, alors là, on a l'impression qu'elle est pas très haute, mais en fait, elle est à 24 mètres de hauteur.
D'accord.
C'est une éolienne aubanée, c'est-à-dire elle est tenue par des filets en acier.
Ouais, ce que j'appelais les câbles quand je suis arrivée, c'est vrai que ça fait un peu mât de bateau, quoi.
Ouais, tout
avec,
à fait.
C'est auban, ouais.
Ça fait un peu, quand on s'approche, le bruit aussi des
ouais,
bateaux.
Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Gling, 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 ouais.
Et donc derrière, on voit le TT de territoire en transition, c'est la partie, la queue de l'éolienne, le safran.
Et alors du coup, est-ce qu'elle vous permet de fournir la maison en électricité?
Alors elle produit, elle a une capacité de production de 1700 watts nominal, c'est-à-dire que quand il y a un vent qui fait, on va dire, 40 km/h, un vent moyen, elle est au maximum de sa production et elle débite 1700 watts. Après, sur l'année, elle produit, il y a des moments avec du vent, des moments sans vent, etc. Sur l'année, elle produit 2000 kWh, qui correspond à peu près à la moitié de la consommation d'une maison.
Quand même.
Moyenne.
Donc ça veut dire qu'elle elle répond à la moitié de la consommation d'électricité de la maison.
Oui, à peu près. À peu près. Et alors, pas de batterie, elle est en consommation directe, c'est-à-dire que l'électricité qu'elle produit est envoyée sur notre réseau.
D'accord.
De la maison. Et donc, quand on consomme de l'électricité et qu'elle tourne, comme en ce moment, ben on va consommer l'électricité de l'éolienne. Admettons qu'elle s'arrête et qu'on continue à consommer l'électricité. Là, c'est l'électricité du réseau
qui prend le relais
d'une façon naturelle.
D'accord.
L'électricité de l'éolienne est toujours prioritaire. C'est un peu comme s'il y avait un peu plus de pression sur l'électricité de l'éolienne. Mais quand elle ne produit plus, ben c'est l'autre électricité qui prend le réseau. Donc on est à la fois relié à l'éolienne et au réseau.
D'accord.
Il n'y a pas besoin de faire de contrat particulier dans ces cas-là. Hein. Il suffit juste d'être branché à une autre source d'électricité, c'est tout.
C'est totalement légal.
C'est totalement légal.
C'est très intéressant cette info. Hein, vous l'avez bien entendu ou vous voulez qu'on vous la répète?
Et on peut faire pareil avec des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que là, nous, on va rajouter un champ photovoltaïque. On appelle champ, c'est-à-dire un ensemble de panneaux qui vise l'autoconsommation pour compléter la production de l'éolienne. Ça sera le même système. Les panneaux vont débiter sur notre réseau. Et admettons, la nuit, ils ne produisent plus. L'éolienne ne tourne pas. C'est l'électricité du réseau qui prend le relais.
D'accord. Voilà. Juste avant qu'on termine cette émission, Bruno Lortirois, qu'est-ce que vous avez prévu pour 2016? Est-ce que vous avez déjà des dates de stage?
Alors, j'ai pas les dates
plus
en
ou
tête,
moins,
en fait.
C'est sur quel mois?
En tout cas, les stages, ils commencent à partir du mois de mars et ils finissent fin août.
D'accord. Voilà. Bon,
et
sur
donc,
la belle saison.
Un stage, il y a en gros deux dates par type de stage.
Voilà. Ok. Bon, ben voilà, pour tout ça, vous allez sur vivre-autrement.org. Un grand, grand merci et un grand, grand bravo.
Merci.
C'est très inspirant, tout ce que vous faites.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.